Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Métropolez-vous. Merci d'être fidèle à cette émission chaque semaine. Nous avons souvent l'occasion d'y parler des équipements culturels situés dans la métropole toulousaine, un certain nombre d'entre eux étant directement rattachés à Toulouse Métropole, en particulier les musées et les établissements relevant de ce qu'on appelle la culture scientifique et technique. Parmi ces derniers, il y a le Quai des Savoirs, vaste bâtiment ouvert à la visite toute l'année, avec des propositions permanentes pour les petits et les grands. Et puis le Quai propose aussi une grande exposition annuelle conçue autour d'une thématique forte. L'exposition 2025 se poursuivra jusqu'au 2 novembre prochain. Elle a pour titre « Comme des moutons » avec un point d'interrogation et est consacrée au phénomène des foules. Voilà un sujet peu commun qui intéresse sans doute les sociologues et les anthropologues, mais qu'on n'imagine pas forcément faire l'objet d'une grande exposition publique. Ce numéro lui est dédié et vous allez voir que ce thème des foules est passionnant. On vous en dit plus dans quelques instants avec mon invité. Mon invité est le directeur du Quai des Savoirs, Laurent Chicoineau, que j'ai déjà reçu plusieurs fois dans cette émission. Bienvenue à vous aussi, très heureux de vous recevoir une nouvelle fois dans ce grand studio de Radio Présence. Vous êtes un peu chez vous maintenant.
Oui, merci Rieu.
Donc cette thématique des foules, qu'est-ce qui a motivé son choix? Est-ce qu'il y a une actualité particulière autour de ce sujet qui est plutôt original encore une fois?
Oui, alors l'actualité des foules, je dirais, c'est tous les jours, puisque tous les jours, nous avons tous et toutes l'occasion de faire partie d'une foule. Et ce qui a motivé ce choix, c'est deux raisons. La première, c'est une exposition qui a été créée par la Cité des Sciences à Paris, Universcience, il y a 2 ans tout juste, qu'on avait eu la chance de pouvoir visiter, qui nous a paru tout à fait intéressante à montrer aux Toulousains et aux Toulousaines. Donc, il y avait cette envie de l'accueillir à Toulouse pour la faire partager, la faire connaître à plus de public. Et puis aussi, il faut savoir que cette exposition, elle a été pilotée au niveau scientifique par Mehdi Moussaïd, qui est un jeune chercheur qui a passé sa thèse à Toulouse. Donc, un petit peu de chauvinisme aussi. Et puis un clin d'œil à nos amis du laboratoire, le CRCA, le Centre de Recherche sur la Cognition Animale du CNRS, qui est basé à Toulouse, qui est un grand laboratoire qui est spécialisé sur l'éthologie. L'éthologie, c'est la science du comportement des animaux. Et Mehdi, quand il a fait sa thèse dans ce laboratoire, a eu l'idée, un peu saugrenue peut-être, mais d'utiliser les méthodes d'éthologie pour les animaux, de les appliquer aux foules humaines. Et donc, il a découvert, alors il n'a pas initié ce domaine de recherche qui existe déjà depuis plusieurs années, on aura l'occasion d'y revenir. Sûrement, il y a toute une histoire de la psychologie des foules. Mais aujourd'hui, on a une approche qui est très intéressante parce qu'elle est interdisciplinaire. C'est-à-dire que vous avez autant besoin de la science physique. C'est un peu étonnant, mais oui, on a besoin des sciences physiques, mais aussi évidemment des sciences sociales, de la psychologie, des sciences expérimentales et évidemment des sciences du numérique aujourd'hui, puisque les foules, on va les retrouver aussi bien dans la rue, dans les stades, que sur Internet et les réseaux sociaux.
Vous l'avez dit, la foule fait l'objet d'études scientifiques depuis longtemps. Et est-ce que ce phénomène et sa mécanique sont encore très étudiés aujourd'hui ?
Oui, alors les mécaniques sont toujours étudiées, notamment il y a un domaine d'application qu'on présente aussi dans l'expo à travers un petit jeu interactif qui est celui de la sécurité. Posons-le tout de suite, c'est vrai que des foules dans des bâtiments, par exemple, posent des questions d'évacuation. Donc un des grands sujets de recherche qui est toujours actuel aujourd'hui, c'est la question des évacuations des bâtiments et puis aussi la circulation aux abords des bâtiments. Je pense par exemple à des stades, quand vous avez énormément de supporters qui arrivent,
qui convergent
vers le même point, il y a des problématiques de gestion de ces flux. Alors bien sûr, ça va se gérer par des personnels de sécurité, des barrières, etc. Mais dans l'urbanisme même, on peut inscrire en fait la circulation des foules. Et donc ce sujet est très important pour la construction des villes, pour la construction des métropoles, parce que bien évidemment, on a besoin d'avoir une meilleure connaissance du comportement individuel et collectif des piétons pour anticiper et faire en sorte que ça se passe le mieux possible.
À quelle époque ont eu lieu les premières études sur le phénomène des foules? On pourrait penser au 19e siècle, mais c'est...
Oui, c'est ça. On va situer ça dans la science moderne, bien sûr, donc 18e et surtout 19e siècle, où il y a eu des tentatives, même plus que des tentatives, des recherches qui ont commencé à être mises en œuvre autour de ça, mais pour des mauvaises raisons, je dirais. C'est-à-dire qu'à l'époque, je fais référence tout de suite à Sir Francis Galton, un chercheur anglais, qui, lui, était très convaincu que les foules étaient stupides, et il voulait absolument montrer la bêtise des foules. Et pour pour cela, il voulait s'appuyer sur la science pour montrer la bêtise des foules. Et donc, il a mis en place une expérience qui est devenue célèbre depuis avec l'expérience de Galton, hein, aujourd'hui, que tous les psychosociologues connaissent bien, et puis les gens qui s'intéressent à l'intelligence des foules, parce qu'en voulant montrer que la foule était bête, il a montré qu'elle était intelligente. En deux mots, son expérience, ça consistait à aller sur les marchés en Angleterre, mais comme on en avait en France partout à l'époque, et vous savez, sur ces marchés, il y a des jeux, encore aujourd'hui parfois, où on doit deviner le poids d'un animal ou le poids d'un panier garni pour le remporter, le poids exact du panier garni. Alors très peu de gens donnaient le poids exact, il s'agissait d'un bœuf en l'occurrence, un gros bœuf, donc personne trouvait vraiment le poids exact du bœuf, et donc Galton a récupéré tous les poids qui ont été proposés par le public, et là quand il a fait la moyenne de tous ces poids, eh ben, il s'est rendu compte que la moyenne était le poids exact du bœuf. Et là il s'est dit, bah tiens, alors peut-être que la foule ne serait pas si bête que ça. Il a renouvelé l'expérience dans plein de marchés aux bestiaux, et à chaque fois, la moyenne des résultats des gens était la bonne réponse. Et du coup, malgré lui, il a montré que les foules, finalement, pouvaient faire preuve d'intelligence collective.
Voilà, on en arrive à ce concept d'intelligence collective dont on va sans doute reparler. Avec qui vous avez travaillé pour monter l'exposition qui, donc, était préexistante, hein, oui. La Cité des sciences et de l'industrie, le Max Planck Institute for Human Development, qui est basé où, d'ailleurs ?
À Berlin, en Allemagne. Hein.
Et puis, alors donc, le comité scientifique, forcément, il y a un comité scientifique lorsqu'on monte
une
expo.
Oui, absolument. Alors, dans le comité scientifique, donc, il était dirigé par Mehdi Moussaïd. Donc, on a évidemment repris contact avec lui et auquel est savoir, on était toujours en contact épisodique avec Mehdi, qui est intervenu sur certaines de nos conférences ou podcasts. On a aussi repris contact avec David Chavalarias, qui est un chercheur, qui est le directeur même de l'Institut des sciences complexes à Paris, en Ile-de-France, qui, lui, est à l'origine d'un outil qui s'appelle le politoscope, et qui est un outil de data visualisation, hein, c'est-à-dire que ça permet de visualiser en fait les dynamiques des comptes sur les réseaux sociaux liés notamment aux grands sujets politiques, ou en tous les cas, pour le dire plus justement, c'est les clivages politiques liés aux grands sujets comme le changement climatique, la vaccination, etc. Il a mis en évidence comment en fait les gens qui pensent la même chose se retrouvent sur les réseaux sociaux dans ce qu'on appelle des bulles de filtre, et comment en fait il y a une polarisation du débat public qui s'effectue sur les réseaux sociaux, non pas parce que les gens seraient animés de mauvaises intentions, mais parce que les algorithmes nous renforcent dans cette dynamique-là. Et donc David Chavalarias est un grand chercheur français et qui est à nouveau dans notre comité scientifique, enfin qui nous aide sur la mise à jour un petit peu de cet outil. Il faut savoir aussi en petit clin d'œil que nos amis du Musée de la Civilisation à Québec sont actuellement en train de présenter la même expo. Et donc avec eux et avec David, nous avons mis à jour le politoscope. Et donc vous verrez aussi des comparaisons France-Canada sur par exemple les mouvements vax et anti-vax ou sur le climato-scepticisme.
Comment se présentait cette exposition à la base, quels étaient ses sous-thèmes avant que le quai l'adapte, et comment se présente-t-elle aujourd'hui?
Alors, on a fait une adaptation, on va dire légère, essentiellement basée sur l'idée de faire plus de l'accent, de mettre plus l'accent sur l'intelligence collective, justement, en ajoutant l'expérience de Galton, par exemple, hein, que tous les visiteurs vont pouvoir faire. Mais pour raconter comment ça se passe dans cette visite d'exposition, vous donner un peu envie de venir la visiter, on démarre par cet enjeu de la mesure des foules, qui est celui de la densité des foules. Hein. C'est-à-dire que vous allez voir, à votre arrivée, on va vous proposer différentes expériences de foules agréables, on va dire, jusqu'à foules un petit peu trop denses et donc un petit peu désagréables. On démarre par justement ces foules compactes. Donc l'expo, elle est divisée en trois parties plus une surprise. Donc il y a une première partie qui est ces foules compactes, où là, en fait, on se rend compte que quand on est très serré, quand il y a beaucoup de monde au mètre carré, eh bien, finalement, on se comporte comme un liquide ou un tas de sable. C'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins des grains dans un immense tas de sable ou des molécules dans un liquide. Et là, c'est la mécanique des fluides qui va nous permettre de comprendre la physique, en fait, hein, les sciences physiques, qui vont nous permettre de comprendre et donc de prévenir aussi, hein, puisque c'est ça l'enjeu derrière, en termes de sécurité notamment, et d'aménagement urbain. Ça va nous permettre de comprendre comment ces phénomènes de foule massive se déplacent, agissent, le phénomène de vague de foule, hein, où en fait, on est bien, malgré nous, obligé de suivre le mouvement. Et donc là, le point d'interrogation de notre titre, du Comme des moutons, où quelque part, on est bien obligé d'aller dans le même sens, dans la même direction que tous les autres. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que vous pourrez apprendre les 10 gestes qui sauvent dans une foule, puisque, en fait, le problème principal, hein, quand on est dans une foule très compacte, c'est un problème d'étouffement. Il faut protéger ses poumons et donc il faut mieux croiser les bras sur sa poitrine quand on est dans des foules très compactes. Et surtout pas crier parce que voilà, il faut garder l'oxygène et garder l'air. Je veux pas vous faire peur parce que l'exposition, elle montre aussi tous les aspects positifs de la foule, mais c'est intéressant de démarrer par cette dimension. C'est là aussi que vous allez pouvoir faire un petit jeu sur les exercices d'évacuation et comprendre que finalement c'est très contre-intuitif. C'est-à-dire que en clair, il vaut mieux qu'il y ait un obstacle devant la sortie pour fluidifier les les flux plutôt que de laisser la sortie complètement vide où là tout le monde se précipite
et, voilà, c'est vrai que ça crée, et voilà et ça crée un arc
exactement ouais. Et on peut plus passer. Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie elle est consacrée aux foules piétonnes. Donc là c'est les foules qui sont un peu plus agréables et qu'on connaît mais vraiment au quotidien hein, parce que c'est quand on va marcher dans Toulouse, dans les villes, c'est là où on est à plusieurs avec des copains, en famille, et c'est là où on va voir comment on se comporte. Donc il y a tout un jeu aussi. Vous pouvez imaginer que vous êtes sur le sommet du Capitole et puis vous regardez la place du Capitole comme ça vue de haut et vous voyez les gens se comporter. Et là en fait on a différentes manières de se comporter naturellement alors qu'en fait tout ça s'est construit et c'est très utile. Notamment un des exemples c'est les autoroutes à piétons, puisque vous remarquerez quand vous êtes dans des rues piétonnes avec beaucoup de monde le samedi après-midi, les gens qui vont dans un sens se mettent tous sur un côté de la rue et ceux qui vont dans l'autre sens se mettent sur l'autre côté. Ça paraît évident comme ça, mais il n'y a personne qui a dit bon maintenant ceux qui vont en face ils vont à droite et ceux qui vont de l'autre côté ils vont à gauche. C'est une auto-organisation, bah, exactement comme font les insectes sociaux, les fourmis, les abeilles, etc. Donc on se comporte aussi de cette façon-là. Et puis la troisième partie, c'est consacrée aux foules numériques. Et là,
alors ça c'est peut-être l'angle le nouveau un peu dans le
voilà, alors elle était
déjà traitement
de
ce sujet.
Exactement, c'était déjà à la base donc à la Cité des Sciences, mais nous au Quai des Savoirs, vous savez qu'on notre amour pour la culture numérique ou l'intérêt pour la culture numérique avec la vie d'aujourd'hui, et donc on a bien sûr mis à jour, comme je le disais, le politoscope, donc cette data visualisation. Donc vous verrez, c'est un film qui est projeté sur un grand mur où vous voyez les points, les différents comptes des réseaux sociaux, notamment sur le compte Twitter X. Vous pouvez voir un petit peu les dynamique collective, mais il y a aussi des vidéos qui sont très intéressantes et qui montrent l'envers du décor et qui vous expliquent comment sont programmés ces algorithmes et comment ils renforcent ces effets de foule sur les réseaux sociaux.
Alors sur le site du Quai des Savoirs, dans la présentation de l'exposition, il est indiqué que, objet de nombreuses critiques, la foule a souvent été perçue comme une étrange, voire inquiétante créature. L'exposition, comme des moutons, dévoile ses mécanismes et ses mystères. Elle entend déconstruire l'image négative qui est trop souvent associée à la foule. Déconstruire l'image négative associée à la foule, est-ce que c'est là la principale originalité de cette exposition ?
Oui, complètement, puisque c'est vrai que, on va dire, spontanément, on peut avoir un petit peu d'inquiétude vis-à-vis de la foule, et en faisant des sondages, alors pas du tout scientifiques, mais quand on préparait l'accueil de l'arrivée de cette exposition, on a souvent eu comme première réaction, « Oh, moi j'aime pas bien la foule, ah, non, ça m'énerve, moi j'aime mieux me mettre sur le côté, etc. » Et donc, on a toujours cette appréhension, cette a priori, et qui est bien normale aussi, hein, puisque les foules, parfois, ça peut être aussi pénible, on peut avoir des expériences négatives. Hein.
Je pense, vu de l'extérieur, il y a quelque chose qui paraît incontrôlable lorsqu'on est dans une foule qui peut à ce moment se mettre en mouvement et dans un sens qui peut nous mettre en danger, effectivement.
Exactement. Alors, il y a les phénomènes physiques, hein, comme on disait tout à l'heure, là, qui s'expliquent vraiment par de la physique de base, hein, j'allais dire, qui sont importants, où on va perdre l'équilibre, on va se faire entraîner. Mais il y a aussi les phénomènes psychosociaux. Et on a un film, d'ailleurs, dans l'exposition qui est très intéressant qui s'appelle La mauvaise réputation, où effectivement, les foules ont mauvaise réputation. Pour la raison que les foules permettent la contagion sociale très rapide. Et la contagion sociale, c'est un phénomène qui s'étudie aussi hein, scientifiquement, qui se mesure, dont on peut mesurer aussi les conditions d'émergence, les conditions de diffusion, qui en fait vise à, c'est tout simple, hein, c'est qu'une foule où quelqu'un va commencer à avoir peur, ça va se transmettre le voisin, et puis de proche en proche, on va commencer à avoir peur. Mais si à l'inverse, quelqu'un est heureux, on vient de marquer un but, on vient de marquer un essai, et on est content, et là, la contagion va aussi fonctionner. C'est-à-dire que la contagion, elle est ni négative, ni positive, c'est plutôt un phénomène de groupe, un phénomène collectif qui se déploie en fonction de la densité de la foule, bien sûr, mais aussi en fonction du contexte. C'est-à-dire que si la foule, elle est contrainte dans un stade, c'est pas la même chose que si elle est répartie dans un très grand espace, etc. Et donc, on a ce phénomène qui peut expliquer beaucoup de choses et qui est très intéressant à comprendre, là encore, pour des raisons très pragmatiques hein, d'aménagement des sites, mais aussi de gestion de la sécurité et aussi d'esprit critique. On peut tous faire preuve d'esprit critique parce que quand on connaît ce phénomène, on peut s'en rendre compte sur le moment même où on le vit. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Chacun, dans notre comportement individuel, de se dire qu'on peut avoir aussi un impact, une influence sur la foule.
Alors, sur les travaux et les études de quels chercheurs vous êtes-vous essentiellement appuyé pour concevoir cette exposition ? Bon, il y a
Mehdi Moussaïd,
voilà. Bien sûr, en premier, mais je suppose qu'il y en a d'autres, et pour certains peut-être qui datent, je pense à Gustave Le Bon par exemple,
oui, alors,
avec son fameux livre « Psychologie des foules ».
Exactement, alors il y a des clins d'œil à l'histoire des sciences, à Gustave Le Bon bien sûr, puisque c'est toujours celui qu'on cite sur l'origine des études sur la foule. Ce qu'il faut dire, c'est que vraiment l'expo, elle est très proche du travail de Mehdi Moussaïd de Fouloscopie, hein. Il a fait un bouquin qui s'appelle Fouloscopie, qui est très accessible au public, qui est très intéressant parce qu'il raconte aussi du point de vue d'un jeune chercheur, chercheur qui passe son doctorat, qui fait sa thèse et qui raconte comment ça se passe dans les labos. Donc ça, c'est assez génial. Et puis, Mehdi, il est connu aussi parce qu'il a une chaîne YouTube qui s'appelle aussi Fulloscopy, dans laquelle il publie beaucoup de vidéos où il explique la méthode de travail d'un chercheur. Et c'est ça aussi qui est passionnant. C'est comment, en fait, il fait en tant que foulologue, donc ce mot qui n'existe pas, moi, spécialiste de la foule, comment, en fait, il fait des manips avec des gens. Alors, évidemment, alors plein gré, hein, on n'est plus aujourd'hui en train de manipuler. Les scientifiques ne font plus d'expérience à l'insu du public, hein, comme la célèbre expérience de Milgram sur la soumission. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, éthiquement, c'est plus valable, heureusement. Donc les psychologues ne font plus d'expérience où ils piègent les cobayes, entre guillemets, en tous les cas, les gens qui se prêtent à ces expériences. Tout le monde est conscient de ce qui se passe. Mais c'est très intéressant de voir que malgré le fait qu'on soit conscient que, par exemple, on va essayer de se transmettre une information en restant le plus proche de l'information originelle, bah, finalement, on va transmettre des rumeurs, des fake news, etc. Et on va comprendre ce phénomène de transmission qui fait que c'est un petit peu... peut-être la condition humaine, que quand on se passe des informations, on les déforme systématiquement parce qu'on applique dessus nos préjugés, nos stéréotypes, et on le fait de manière assez inconsciente. Et même en toute bonne volonté, on va transmettre en fait des infos qui ne sont pas tout à fait justes, et de proche en proche, l'information va être complètement déformée. Et ça, on le voit dans des vidéos que Mehdi explique très clairement.
Pour prolonger un peu cet aspect, est-ce que la question, le phénomène de l'entre-soi est abordé dans l'exposition? C'est un autre phénomène moutonnier, oui, qui est très actif sur les réseaux sociaux notamment.
Oui, il est abordé tout à fait dans cette partie sur les réseaux sociaux, où là, on explique bien que c'est un phénomène, si vous voulez, qui s'explique de deux manières. D'une part, par la psychologie humaine, c'est-à-dire qu'on a ce tropisme à être assuré avec...
À être conforté dans nos convictions, nos idées.
Exactement, conforté avec un biais de confirmation, comme on dit, au niveau cognitif. C'est-à-dire que quelqu'un qui pense comme vous, bah, spontanément, on va avoir de la sympathie plutôt que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Donc ça, spontanément, ça va fonctionner comme ça dans notre cerveau. Et la deuxième raison qui fait qu'aujourd'hui, ça prend des proportions qui sont assez graves, c'est que les algorithmes ont été programmés pour amplifier ce biais de confirmation. Et c'est ça, aujourd'hui, qui pose le vrai problème des réseaux sociaux, c'est que les algorithmes qui tournent derrière, hein, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez apparaître sur votre fil de discussion, c'est pas uniquement parce que vous avez liké les personnes, vous décidez de suivre tel ou tel journaliste, influenceur, copains, etc. Mais c'est aussi l'algorithme qui va privilégier, à travers les interactions que vous avez eues, certaines informations, certains posts, certains tweets, pour en fait vous garder. L'objectif, c'est de vous garder le plus longtemps possible sur la plateforme, parce que c'est leur modèle économique. C'est comme ça qu'ils vont vendre de la publicité et qu'ils vont devenir un des hommes les plus riches de la planète.
Oui, parce que le but est toujours commercial, in fine.
Exactement. Et en fait, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Ça, il ne faut jamais l'oublier.
Donc l'exposition est installée au Quai des Savoirs jusqu'au 2 novembre prochain, et j'imagine qu'il va y avoir d'autres rendez-vous, des temps forts autour de l'exposition durant cette période.
Absolument.
Une programmation culturelle.
Absolument, oui. On aime bien proposer des rendez-vous à notre public, soit pour aller un peu plus loin sur certains sujets qui sont proposés, soit pour justement les mobiliser, leur proposer d'intervenir, d'interagir, de faire des expériences participatives. Donc là, on a tout un programme qui est construit, que vous pouvez retrouver sur notre site internet.
Alors je crois qu'il y a même des aspects avec la musique, notamment lorsqu'on chante en chœur.
Oui, oui, on a là aussi une expérience dans l'expo, qui est un karaoké auquel vous allez pouvoir tous participer et vous amuser avec. C'est-à-dire que là, vous allez vous rendre compte que quand vous chantez tout seul, bah, vous chantez plus ou moins bien. Pour ma part, je ne chante pas forcément très juste. Mais par contre, quand on est plusieurs, eh bien là, on chante plus juste, parce qu'on a un phénomène d'imitation, un phénomène là aussi par proximité. Hein. Si on entend quelqu'un qui chante un peu mieux que nous, juste à côté dans l'oreille, on va chanter un peu mieux. Nos voix, en fait, vont se caler. Et ça, tous les chefs de chœur le savent, mais c'est une connaissance dans le domaine de la musique qui est prouvée aussi scientifiquement, en tous les cas, qui est étudiée scientifiquement.
L'expérience permettra de le vivre en toute conscience.
Absolument, exactement.
En étant conscient de ce phénomène, donc des rencontres, des conférences, des événements.
Une expérience participative aussi,
si je peux dire,
avec le Stade Toulousain, puisque ça c'est aussi un grand projet, avec le CNRS, donc une expérience scientifique participative qu'on va proposer aux supporters du Stade Toulousain. L'idée, c'est qu'ils puissent télécharger une application pour pouvoir tracer leur comportement à l'intérieur du stade en tant que foule. Alors c'est complètement anonyme, hein, clairement, on va respecter évidemment la vie privée de chacun. Il ne s'agit pas de savoir qui est où, mais par contre de regarder les mouvements de supporters. Donc ça intéresse aussi beaucoup le stade pour aussi travailler sur voilà, la sécurité, sur l'organisation, etc. Et puis on va faire aussi à la mi-temps, faire jouer les supporters à l'expérience de Galton en demandant le poids de l'équipe au complet. Et donc là, on va aussi pouvoir en direct faire cette expérience et montrer l'intelligence collective de la foule des supporters.
Alors il faudra la faire en faisant en sorte qu'ils n'aient pas eu avant accès aux fiches des joueurs, parce qu'on peut tricher là.
On peut tricher, mais on voilà, je dis pas tout.
Oui, c'est mieux de pas tout dire. C'est mieux de pas tout dire.
On n'aura pas les réponses sur Internet, en fait.
Oui, parce qu'effectivement, avant, quand on faisait ces expériences, on pouvait pas aller chercher sur Internet certaines informations. Une question qu'on peut se poser pour ceux qui vont aller à l'exposition. Les enfants, à partir de quel âge on peut les amener dans une exposition telle que celle-ci?
Alors, les enfants, on les accueille, nous, à partir de 2 ans auquel est petit. Mais dans l'exposition, à partir de 7 ans, 6-7 ans, il y a des choses à voir. On est aussi en train de préparer un programme sur la foule à hauteur d'enfant. Donc ça, ce sera pour la fin de l'exposition, plutôt à la rentrée. Mais c'est pas pareil quand on est petit et grand dans une foule. Et donc, quand on est enfant, le rapport à la foule, il est différent. Et donc là, on y travaille aussi avec des psychosociologues et des spécialistes de la petite enfance.
Et pour terminer, la question que j'aime toujours poser à ceux qui organisent des expositions, comment vous espérez que les visiteurs vont repartir de celle-ci par rapport aux a priori qu'ils peuvent avoir sur les foules lorsqu'ils y arrivent?
On espère toujours que les gens repartent avec le sourire déjà, qu'ils repartent heureux d'avoir passé un bon moment, parce qu'on est aussi là pour
faire ludique, passer un bon moment.
Exactement. Et puis aussi apporter le plaisir de la connaissance, le plaisir de la compréhension. L'idée, c'est jamais de devenir un expert, mais par contre, c'est d'avoir des petits déclics dans la tête, comme on a toutes et tous, hein, à un moment donné, où on se dit « Ah ouais, tiens, d'accord, ah mais ça, je m'en doutais, mais voilà, il y a des mots qui viennent dessus. » Et ça, c'est toujours très, très intéressant. Et par exemple, une dernière anecdote, ou en tous les cas, petite question, c'est comment appelle-t-on la peur de la foule, d'après vous? Quel est le terme scientifique?
J'ai dû un jour le lire, mais je suis incapable de vous le redonner comme ça.
Parce que souvent, tout le monde parle d'agoraphobie.
Non, voilà. Ça, c'est la peur des grands espaces.
Exactement, c'est la peur des grands espaces. Et bien, dans l'exposition, vous découvrirez comment on appelle la peur de la foule scientifiquement et pourquoi on croit toujours, on fait toujours cette confusion avec l'agoraphobie, parce que c'est pas si bête que ça.
On va en rester là-dessus. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'en avoir été l'invité, Laurent Chicoineau. Je
Merci
rappelle que l'exposition Comme des moutons sera ouverte jusqu'au 2 novembre. Vous pouvez vous renseigner sur les tarifs, les jours et les horaires d'ouverture sur le site www.quaidessavoirs.toulouse.métropole.fr. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite à tous un très bon week-end.
Métropole et vous. Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.